Retour. Chaque soir, chez Tante Thérèse, Dunia écoute la radio. Les combats pour la libération de Paris ont commencé. De temps à autre, un soldat allemand en fuite est arrêté et fusillé. Tante désapprouve. Il faut les faire prisonniers, dit-elle. Quelques chefs qui ont revêtu l'uniforme et se battent aux côtés des troupes alliées rendent visite à Tante. Dunia ne connaît pas ces personnages importants. Il parle du courage de Georges, de la victoire prochaine et des punitions à infliger à ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Père Seguin a trop de travail à la forge. Il est devenu totalement sourd. Grand-mère Eugénie le rudoie. Il ne répond pas. Semble perdu dans ses pensées. Thérèse dit que pour lui aussi, la guerre est dure. Il se fatigue. À son âge, il a droit au repos. Le chagrin envahit la maison. Un soir, le speaker annonce, dans l'euphorie, la fin des combats dans la capitale. Paris est libéré. Musique. Dunia court prévenir grand-mère. Tante Thérèse invite toute la famille à dîner. Dunia se sent légère. Elle aide rieuse. Une soirée comme autrefois. Non, oncle est déporté. Il n'y a plus de lettres de maman, plus de nouvelles de papa. On annonce de violents bombardements sur les villes allemandes. Ceux qui sont dans ces maisons, prisonniers, seront-ils aussi victimes de ces raids aériens? S'interroge-t-elle. Quelques jours plus tard, grand-ma décide de rentrer avec sa petite fille vers la capitale. Père Seguin a obtenu un cheval et une charrette et Thérèse les conduit à la gare de Joigny. Depuis hier, les tilleuls ont été rendus à leur propriétaire. Dunia se questionne. Aimait-elle cette maison, belle et blanche, avec ses deux grands arbres odorifiants? La grange et son grenier, repère de ses amis, l'écurie abandonnée, la petite fontaine près de la bergerie. Un soir, revenant d'un village où elle avait été chercher du lait, sa bicyclette avait buté contre une pierre. La bouteille s'était brisée et elle avait voulu la rattraper. Alors, elle s'était ouverte profondément la peau, sous le pouce. Elle avait pédalé avec ardeur, se sent couler. Elle s'était précipitée chez grand-ma qui l'avait accusée de mentir. Dunia était sortie en claquant la porte. Avait ouvert le robinet et glissé sa main sous l'eau froide. Le sang se mêlait à l'eau. Sa peau tressautait. La fillette ne souffrait pas. La colère l'avait envahie. Grand-ma calmée lui avait mis de l'alcool et un pansement. La main bandée, elle avait couru chez tante lui raconter sa mésaventure. Elle regarde la cicatrice. La peau souffle encore. Un souvenir des tilleuls. Un souvenir de Saint-Léon. Comme les boucles chaudes de Claude, la salle du four et les messages, la ferme de l'étang, les pigeons. Dunia monte dans la charrette. Ses jambes sont longues et maigres, c'est la guerre et il n'y a plus de tissu. Elle ne peut acheter ni vêtements ni souliers. À la robe de Dunia, grand-ma a rajouté deux volants de couleurs différentes, on dirait un clown. Lorsque les garçons du village la croisent, ils l'appellent la grande gigue. Serge la surnomme la quille, Pierre la traite d'asperge, elle les déteste. Ses souliers à semelles de bois la serraient tant que Thérèse lui a fait cadeau d'une paire d'espadrilles. Elles sont trop grandes, elle les perd à chaque pas. La charrette traverse la voie ferrée, grand-ma et elle sont arrivées à la gare de Saint-Léon il y a plus d'une année. Elle suit du regard le chemin qui serpente le long des vernes qui longe la rivière. Avec Claude, elle roulait à moto, ses cheveux doux, sa voix agréable. Où est-il? Dans les combats, a-t-il été blessé? Non. Il dirige les troupes qui ont libéré Paris. Le reverra-t-elle? S'il passe à Saint-Léon, demandera-t-il son adresse? Aura-t-il envie de la revoir? Au trot du cheval, elle parcourt ce paysage si connu. Ici, un beau chêne, là-bas, la ferme abandonnée et l'arbre creux où elle aimait se cacher. Près de la rivière, l'unique saule pleureur, large bouquet argenté qui contraste avec les peupliers, flèches verticales, hautes et stupides. Aussi stupide que moi, pense la fillette, qui se sent soudain bizarre. Elle se retourne. Un dernier coup d'œil à Saint-Léon. Ressurgit la journée du drame. Les plaintes donc, la grange brûlée et la suite fade des jours tristes. Elle est fâchée. Fâchée contre grand-ma qui l'a giflée à l'arrivée des premiers Américains. Elle se sent fâchée contre tous ceux qui menacent, tous ceux qui prolongent la guerre. Elle a grandi, elle a vieilli aussi. Sans cesse, les clients de la forge disent à tante, quelle grande fille vous avez. Est-ce le chagrin qui envahit, qui fait vieillir? Elle a mûri. Elle sait enfermer sa peur et faire comme si elle était invincible. Elle sait aussi oublier de penser, s'absenter. Demeure là, inerte, indifférente, étrangère à elle-même. C'est alors que grand-ma la prend dans ses bras. Dunia, ma douce, tout va s'arranger. À quoi penses-tu? Que signifie cet air triste? Pourquoi m'as-tu giflé le jour de l'arrivée de l'armée de la libération? Grand-ma, avais-je fait quelque chose d'interdit? Pardon, répond lentement grand-ma. Mais cette soudaine explosion de joie des habitants m'a mise hors de moi. La guerre n'est pas terminée. Il y a encore tant de souffrances. Je n'ai pas supporté. Sais-tu qu'à la dernière guerre, le 11 novembre 1918, tous les Parisiens chantaient la victoire. Seul, je pleurais. Je pleurais tous les morts. Ces jeunes gens qui avaient été tués, les blessés, les mutilés, les familles éclatées, les orphelins, que de chagrin. À cette guerre, j'avais perdu mon mari, mon frère, mon neveu de 20 ans, ton père, Georges, sont loin. Nous n'avons plus de nouvelles de ta maman. Aujourd'hui, je suis inquiet. Dunia, ce bonheur fugitif m'a semblé injuste, inhumain. Je n'ai rien contre les soldats courageux qui libèrent notre pays, mais demain, ils seront peut-être tués, eux aussi. Alors, justement, il faut leur offrir des cadeaux, des fleurs, grand-main. Tu as raison, ne m'en veux pas. Je suis trop vieille. Moi aussi, j'ai vieilli, grand-main. Et elles poursuivent silencieusement leur chemin. Joigny fête sa libération. Des adieux rapides attendent Thérèse et un train surchargé les emmène vers Paris. Toutes deux retrouvent avec joie un pavillon intact. Il a échappé au bombardement et les Allemands ne l'ont pas réquisitionné comme le craignait grand-main. Mais il n'y a plus de courrier, aucune lettre de maman, aucune nouvelle de papa. Septembre 1944, plusieurs lettres arrivent de Suisse. Maman a été opérée, elle se porte de mieux en mieux. Une longue convalescence lui est nécessaire, mais pour la première fois, elle envisage son retour au printemps prochain. Fermé pendant la guerre, le lycée de la ville ne rouvrira pas cette année. Dunia espère que grand-ma acceptera de l'inscrire au lycée de la ville voisine. À une petite demi-heure de la maison, il y a le train et lorsqu'il fait beau, elle peut y aller en vélo. Mais grand-ma refuse. Je ne veux pas prendre cette responsabilité en l'absence de tes parents. Grand-ma, je m'ennuie. Je voudrais entrer en sixième. J'ai 11 ans. Je serai prudente. Impossible, répondit-elle. Catégorique. C'est trop loin. Tu continues à l'école communale près de la maison. Tu entres dans la classe du certificat d'études. Dunia écrit à maman. Celle-ci lui répond de patienter. Elle ne peut de si loin prendre des décisions et lui demande d'obéir à grand-ma. Elle peste. À quoi bon avoir réussi l'examen? À quoi bon avoir grandi, avoir vieilli? Décidément, personne ne la comprend. Dunia attend la fin de la guerre, contenant mal son impatience et sa colère. Avril 1945. La cloche sonne. Dunia ouvre la petite grille. Papa. Un père hirsute et amaigri qui l'embrasse, sa joue pique. Il parle et Dunia a l'impression de sombrer dans sa voix si chaude, si tendre. Grand-ma pousse un cri de joie, précipitation, embrassade, heureuse retrouvaille. On téléphone à maman. Dunia aperçoit une larme qui glisse le long de la joue de son père. Elle s'assoit sur ses genoux et le serre fort dans ses bras. Maman rencontre prochainement les médecins et demande à quitter le sénatorium. Elle est presque guérie. Dans quelques jours, Dunia et son père partiront la chercher. Ils seront enfin réunis. Mai 1945. Après avoir passé 2 semaines de vacances heureuses dans les montagnes suisses entre son père et sa mère, Dunia est de retour à la maison. Il a été entendu qu'à la rentrée scolaire, elle irait au lycée. Le pavillon retentit de bruits joyeux, le rire en chapelet de maman, les appels de papa qui perd tous les objets et dans la cuisine le chant de grand-ma. Mais un soir, Thérèse surgit, les yeux rouges. D'un trait, elle dit « Georges est mort à Buchenwald, au camp d'extermination, ainsi que Marcel Vielle et Georges d'Asté. » On parle d'élever à leur mémoire un monument à l'emplacement de la grange brûlée. Un sanglot l'arrête. Maman et grand-ma se précipitent autour d'elle. Papa a pris Dunia par la main et l'a emmenée dehors. Ils ont marché à travers la ville longtemps. Ils parlaient doucement, expliquaient. Sa voix faisait du bien.